Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Sur le livre « Hôpitaux en détresse, patients en danger » paru en avril 2018, un bandeau rouge indiquait « Arrêtez le massacre ». Il donnait déjà le ton. Si l'on en croit les deux auteurs de cet ouvrage, Philippe Alimi et Christian Maresco, le malaise se serait aggravé à l'hôpital avec la loi Bachelot de 2009 qui confiait la direction des hôpitaux publics à des gestionnaires, des managers, des cost-killers qui font certes leur job, c'est-à-dire équilibrer les finances, mais ne se soucient guère, en tout cas pas prioritairement, de la qualité des soins, du bien-être des soignants et de la mission de service public de l'hôpital français. Avant cela, en 2004, la mise en place de la T2A, c'est-à-dire tarification à l'acte, avait commencé le travail, comme l'explique un papier très clair du Monde. En gros, la T2A, c'est un système de codage informatique des actes médicaux qui les classe par groupe et qui rémunère les hôpitaux en fonction des activités pratiquées. Les effets pervers sont d'une part que la T2A encourage à réaliser le plus d'actes médicaux possible et produit une espèce de course à la rentabilité. Et d'autre part, comme certains soins ou certains actes sont plus rémunérateurs que d'autres dans le classement, la T2A incite aussi l'hôpital à privilégier certains actes médicaux plutôt que d'autres, les plus rentables, ceux qui paient le mieux, au détriment de ceux tout aussi nécessaires mais moins rentables. Il n'est pas rare, par exemple, qu'une opération chirurgicale qui rapporte de l'argent à l'hôpital soit préconisée alors qu'elle n'est pas indispensable, voire inutile. Les victimes ne sont pas seulement les patients, mais les soignants sous pression budgétaire constante qui ne peuvent plus, disent-ils, exercer leur métier sereinement. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que ce ne sont plus seulement les infirmiers, les aides-soignantes et les aides-soignants, les brancardiers et autres soutiens de l'hôpital qui donnent de la voix, mais des nouveaux venus sur le terrain de la contestation. Les gilets jaunes de l'hôpital sont médecins, chefs de service, professeurs de médecine, des pontes comme on dit, qui veulent se faire entendre, démissionnent, pétitionnent, protestent, comme le raconte Pascal Pascariello dans son enquête sur le malaise à l'hôpital, tout de suite dans Les Pieds sur Terre.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe, et c'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai essayé d'alerter par beaucoup de moyens différents pour montrer ce que je vivais chaque jour. J'ai pris en photo certaines situations du service en respectant à chaque fois, bien évidemment, l'anonymat des patients. Ici, notre secrétaire avait eu son faux plafond qui s'était effondré juste à côté d'elle avec une canalisation d'eau qui s'était ouverte en grand juste à côté d'elle et qui avait fait à l'époque une inondation vraiment avec 4-5 cm d'eau dans tout le couloir qui permettait d'accéder aux chambres des patients. Quand ça arrive une fois, on dit oui, il y a eu un problème ponctuel et tout ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais quand ça se répète extrêmement régulièrement, et là, nos fuites d'eau, on en avait, en période pluvieuse, on va dire, on en avait 2-3 fois par mois. C'était difficilement tolérable. Quand c'est dans le bureau de la secrétaire, c'est pas bien. Mais quand ça se passe dans une chambre de l'hôpital, avec des patients qui sont en état critique, quand ça tombe en côté d'eux ou quand ça tombe même sur leur lit, ça devient fortement problématique.
L'hôpital public prend l'eau et ce n'est pas seulement une image. En octobre, j'ai été saisie par le nombre de démissions de médecins et professeurs dans les hôpitaux publics. À l'hôpital de Saint-Brieuc, le 9 octobre, près de 120 médecins et chefs de service ont démissionné de leurs fonctions tout en continuant d'assurer les soins. Ils ont quitté la commission médicale d'établissement, instance qui assure le bon fonctionnement de l'hôpital, pour dénoncer les décisions prises par leur direction. Une dizaine de jours plus tard, j'apprends que le professeur Michel Canis démissionne de son poste de chef de service de gynécologie au centre hospitalier de Caen pour dénoncer les dérives financières de son établissement. Voici ce qu'il m'a dit. J'ai démissionné pour me remettre en accord avec moi-même, parce que je pense que je ne peux pas être celui qui fait appliquer des restrictions budgétaires ou des règlements qui vont à l'encontre de ce que je pense et de la santé des patients. Saint-Brieuc, Caen, Amiens, Paris, Nantes, les exemples ne manquent pas, hélas. De passage à Paris, entre deux remplacements dans des hôpitaux, j'ai rencontré Philippe, médecin réanimateur. Il a travaillé dans un hôpital public pendant 8 ans. Il a signalé à sa direction les conditions dans lesquelles ses patients étaient reçus. Des conditions difficilement imaginables.
Ce sont des locaux qui étaient en sous-sol, qui, de fait de la conformation de l'hôpital à flanc de colline, se retrouvaient enfoncés sous terre, sans fenêtre, avec une aération artificielle et des chambres à 4 lits. Et il y avait aussi 2 chambres doubles et 1 chambre triple. Donc en gros, on entassait des patients dans une cave. Normalement, dans un service de réanimation, les patients sont seuls par chambre parce qu'ils ont besoin de repos. Les patients rentraient dans notre service principalement après une opération chirurgicale compliquée ou après une opération chirurgicale qui s'était compliquée. Donc c'est des situations de stress pour l'équipe, pour le patient aussi. Mais donc cette situation de stress est vécue dans un environnement inadapté, hostile. On peut avoir des durées de séjour. En moyenne, on est de l'ordre de la semaine, hein. Mais on pouvait aller jusqu'à plusieurs semaines, voire 2-3 mois d'hospitalisation pour certains patients. Le fait de ne pas avoir la fenêtre, de ne pas avoir l'alternance de jour et de nuit, peut créer ce climat de confusion pour les patients, qui conduit à l'agitation. Et un certain patient m'a dit une fois, j'en peux plus, il m'a dit, voilà, docteur, ça fait 3 jours que je suis là, j'ai pas vu la lumière du jour, je sens que je suis en train de péter les plombs. Les médecins de garde ont pris le parti, et probablement que c'était ce qu'il fallait le faire, c'est de lui administrer des médicaments pour le calmer, que ce soit des neuroleptiques, des anxiolytiques. Donc c'était lié à la conformation des locaux. Et on a pu être amené, j'ai pu être amené, mes collègues ont pu être amenés à administrer des médicaments à des patients pour qu'ils soient calmes. Donc en gros, on était dans un système un peu aberrant. J'ai fait tout ce qu'il était possible de faire pour s'en distancier de cet enfermement.
Au cours de cette enquête, j'ai entendu de nombreux médecins qui, comme Philippe, devaient faire face à des situations inacceptables pour leurs patients. L'un d'entre eux m'a fait part du refus de son service de soigner un enfant brûlé parce qu'il serait trop coûteux pour le service. Jusqu'au cas d'un patient décédé à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris en mai dernier, faute de n'avoir pu être pris en charge par un service débordé. De son côté, Philippe a fait tout ce qu'il pouvait pour aider ses patients.
Dès que je pouvais, je prenais avec moi une infirmière, je prenais avec moi une aide-soignante et on allait voir le patient. Et on disait au patient, regardez, on va vous mettre au fauteuil et on va vous pousser dehors. J'ai en tête un patient. Je l'avais mis en plein soleil, volontairement, parce qu'il n'avait pas vu le soleil depuis plusieurs semaines. Il était content, il avait souri.
Mais parfois, il n'y a pas d'alternative, pas de solution. Par exemple, difficile d'isoler des patients qui devraient l'être. Cette promiscuité, leur entassement par 4 dans une chambre, provoque des situations insoutenables.
On a eu un décès dans une chambre à 4 lits. On n'enlève pas le corps à l'instant même, on ne peut pas pour des moyens pratiques, et on est obligé, on est tenu de garder le corps pendant 2 heures. 2 heures qui sont du temps pris pour que les soignants enlèvent tous les tuyaux qu'il peut avoir, et puis 2 heures pendant lesquelles aussi les familles des patients se recueillent autour du corps du défunt. Donc là, on avait une personne qui était décédée, et les 2 enfants, un frère et une sœur, se tenaient de chaque côté du lit. Pour un minimum d'intimité, on avait disposé des paravents tout autour du lit. Le défunt et ses 2 enfants étaient plus ou moins isolés. Mais pas isolés du bruit, pas isolés de la lumière, pas isolés du son non plus. Et ce qui s'est passé, c'est que le voisin, juste immédiat de ce patient, avait été installé sur une chaise pot, une chaise percée, c'est-à-dire qu'il était aux toilettes, et il faisait ses besoins à 20 cm de la famille qui était en train de se recueillir. Et cette situation, moi, m'a fait rire. C'était un exutoire, quelque part. Mais c'était tellement horrible que je suis sorti pour rire. On peut pas traiter des gens comme ça en France en 2018.
Loin d'être drôle, en réalité, ce jour-là fut un déclic pour Philippe. Il a alors multiplié les alertes. Dans l'intérêt de ses patients et de son service, il ne pouvait qu'être soutenu. C'est ce qu'il pensait, en tout cas.
Donc c'est pour ça aussi que j'ai recommencé à donner l'alerte, à déclarer. Je voulais faire mon travail aussi pour dire, voilà, j'ai déclaré les choses, j'ai donné l'alerte. Ben maintenant, il faut que mes supérieurs fassent quelque chose à leur niveau. Alors, les fiches d'événements indésirables, j'en étais à plus de 60 en 6-8 mois. J'ai pris en photo certaines situations du service. J'ai pris ces photos aussi parce qu'on m'a demandé, suite aux nombreux événements indésirables que j'étais en train de réaliser, la commission qualité m'a demandé de leur présenter la situation du service. Ce service qui fonctionnait comme ça depuis déjà plus de 15 ans. Là, c'est l'ambiance un petit peu du matin. Le matin, il y a beaucoup de soins à l'hôpital. Et on voit différents patients ici, les quatre patients de la chambre à quatre lits, avec un patient ici qui est intubé. En face, on avait un patient ici qui avait une hémorragie digestive. Et ici, on avait un patient qui était lentement en train de se réveiller. Ici, nous avons une patiente qui était une dame de 90 ans, qui est décédée dans la nuit. Donc, tout se passe dans la chambre avec les soins du matin, autour d'une patiente décédée. Il y a du bruit, il y a de l'agitation. Et un petit peu plus tard, la famille va pouvoir se recueillir dans la même chambre à quatre lits, avec les mêmes patients présents, autour de leur mère, en l'occurrence décédée. Avec la télé allumée, bien sûr. Le fait d'avoir présenté mon topo en commission qualité me disait que peut-être c'était un pas en plus que j'avais franchi. L'important, c'est de ne pas rester immobile, passif, face à une situation intolérable. Suite à la présentation en commission qualité, donc juste avant les vacances d'été, tout le monde est parti en vacances et puis voilà, on oublie. Moi, j'ai rédigé ces événements indésirables. J'ai sollicité des rencontres, j'ai eu des regards un peu affligés de mes interlocuteurs en disant « ah oui, c'est pas bien, effectivement ». Mais il n'y a eu aucune réponse directe apportée au moment où je travaillais à l'hôpital. Vers la fin, les choses se sont un petit peu accélérées, alors que tout était prévu pour que je me retrouve responsable de ce service. Donc, continuer à faire ce que je faisais en termes de clinique, en termes de recherche, en termes d'enseignement, brutalement, alors que rien n'y pressentait. On m'a fait comprendre que mon contrat n'était pas renouvelé. J'étais contractuel, c'est-à-dire que je n'avais pas de poste fixe à l'hôpital, je n'étais pas encore statutaire. Voilà. Quelques mois après, je reçois une lettre de non-reconduction de contrat, sans plus d'explications qui me soit donné de quelques personnes que ce soit, et malgré mes demandes. Donc à la suite de ce courrier que j'ai reçu, j'ai continué à travailler une semaine encore, parce que voilà, j'ai reçu le courrier, mais il y avait les patients, il y avait les soins, il y avait l'équipe. Et après, je suis parti en vacances comme c'était programmé, et en revenant de mes vacances, on m'a signifié que j'avais suffisamment de congés en retard pour ne plus avoir à revenir dans le service d'ici la fin de mon contrat, donc qui était 2 mois plus tard à peu près. Tous les jours, je suis revenu à l'hôpital pour m'installer dans mon bureau et j'ai continué à travailler. Il n'y a eu aucune écoute de l'administration pour revenir en arrière sur une situation qui était aberrante et qui a mis largement le service en difficulté. Et quand je dis le service en difficulté, c'est aussi l'équipe soignante et c'est aussi, bien évidemment, in fine, les patients. Et c'est un gros, gros gâchis, un énorme gâchis.
La seule réponse que Philippe reçoit de la direction de l'hôpital aux différents signalements qu'il a faits, aux alertes qu'il a lancées, est donc son renvoi. Un médecin qui prend soin de ses patients, un médecin qui respecte le serment d'Hippocrate, n'est étonnamment pas reconduit dans ses fonctions.
J'attendais la fin du contrat pour qu'on me dise « bon voilà, c'est une vaste blague, tu reviens et voilà, on va continuer et voir les choses ». Et rien ne s'est passé et personne ne m'a rappelé. J'ai quand même fait 2 lettres de relance à la direction en leur demandant des explications, en leur demandant un entretien, sans aucun résultat. Donc c'est dur, c'est incompréhensible, c'est violent. Honnêtement, je n'ai pas encore réalisé. Moi, j'ai eu honte. Ça m'est arrivé d'avoir un sentiment de honte vis-à-vis de ce service. De honte aussi parce que je me suis fait virer de mon travail et ce n'est pas quelque chose dont on peut être fier. Je ne désespère pas de pouvoir retourner travailler à l'hôpital normalement, sereinement. Je continue à travailler bien sûr, mais maintenant en remplacement, parce que je ne me sens pas de me réinvestir encore dans un service. C'est tout le problème de l'hôpital public. En fait, l'hôpital public, il y a énormément de gens de très bonne volonté qui veulent faire leur métier comme on l'a appris, comme ils savent que c'est bien de le faire. Et à l'hôpital public, il y a des gens qui passent leur temps à déconstruire ce soin humain qui est extrêmement important, qui détricote un petit peu tout ce qui peut se faire autour du patient. Si les managers font tout pour déconstruire tout ce qui existe d'humain à l'intérieur de l'hôpital, c'est normal que des gens qui sont peut-être profondément humains ne s'y retrouvent pas. Donc peut-être que l'hôpital public n'est pas fait pour les gens humains. C'est pas forcément simple de se replonger dans, dans ces situations un petit peu douloureuses.
Au cours de cette enquête, j'ai rencontré des médecins, des chefs de service, mais également des professeurs de médecine. Cette crise les touche désormais eux aussi. Certains d'entre eux en parlent ouvertement. Ils n'étaient pas connus pourtant pour leur culture de la contestation et se sentaient certainement intouchables jusque-là. Ce n'est plus le cas. Les voici tout aussi dévastés par les réformes. À l'image des aides-soignantes ou des infirmières, ils ne s'identifient plus au modèle de rentabilité qu'on tente d'imposer à la santé publique. C'est le cas du professeur Eric Rosenthal. Cela fait 34 ans qu'il pratique la médecine interne au centre universitaire hospitalier de Nice. Aujourd'hui, il est en arrêt maladie.
Ça faisait déjà un petit moment que j'avais du mal à aller à l'hôpital, et quand j'y étais, je ne me trouvais pas bien, et quand j'en partais, je ne me trouvais pas bien non plus. Ce que j'observais depuis un moment, et c'était de plus en plus difficile à accepter, même si il y avait un peu des répercussions sur la vie professionnelle, c'est le fait d'installer une vision comptable au centre de la gestion de l'hôpital. Tout ça, ça s'est mis en place avec la tarification à l'activité en 2009. Chaque patient est codé. Un code correspond à tel diagnostic. Différents diagnostics s'associent entre eux pour faire ce qu'on appelle un groupe homogène de patients. Et chaque groupe homogène de patients rapporte tant à l'hôpital. Et à côté des entrées d'argent, on a bien entendu des charges qui sont à la fois les charges en personnel, mais aussi les charges que représentent les traitements. Il faut que les codes soient suffisamment corrects aussi pour rapporter tout l'argent qu'un patient doit rapporter à l'hôpital. Sinon, on creuse notre déficit.
Instaurée en 2004, la loi T2A, c'est-à-dire la tarification à l'activité, est critiquée pour la course à la rentabilité qu'elle entraîne. Elle peut en effet inciter à réaliser le plus d'activités possible à l'hôpital pour amener de l'argent. Et contrairement à sa vocation initiale qui est de rationaliser les dépenses, cette loi se révèle inflationniste et surtout, elle encourage à mettre l'accent sur certaines activités bien rémunérées. Il y a désormais des opérations qui rapportent et surtout des patients qui sont rentables et d'autres non. Une logique du privé appliquée à la santé publique.
Le chef de pôle qui est en place depuis un peu plus de 2 ans et demi maintenant nous a dit « Vous n'avez qu'à faire comme ils font dans les cliniques, vous ouvrez la porte de l'ambulance, vous regardez le patient, si c'est un patient qui ne va pas rapporter, si c'est vos débris habituels de la chirurgie ou si ce sont des indigents, vous fermez la porte de l'ambulance et vous le renvoyez chez lui. » Alors, ce sont des termes choquants qui ont été répétés à la fois dans des échanges privés, en temps de réunion en petit comité, mais même en réunion, je dirais, plus officielle, en présence de membres de la direction qui n'ont jamais bronché sur le moment. Et on sait pertinemment que certains profils de patients qui ne sont pas rentables aujourd'hui dans le privé, c'est nous qui les assumons à l'hôpital public. Donc si on ne les prend pas en charge nous, qui va les prendre en charge, ces patients? Donc bien évidemment, il n'est pas question d'ouvrir la porte de l'ambulance et de la refermer si le patient ne convient pas.
Cette course à la rentabilité peut avoir de lourdes conséquences sur la santé des patients auxquels certains traitements peuvent désormais être refusés.
Il y a eu des traitements de chimiothérapie qui ont été refusés pour des patients qui en avaient besoin au motif qu'ils étaient trop chers et que le patient ne valait pas la peine. Ça a été le cas pour un patient infecté par le VIH qui avait besoin d'un traitement de chimiothérapie qui coûte quelques milliers d'euros. Ce traitement avait été validé en ce qu'on appelle réunion de concertation pluridisciplinaire. Chef de pôle qui est cancérologue a refusé, puisqu'on avait besoin de sa signature, de valider cette chimiothérapie. Il a fallu qu'on fasse signer la demande de délivrance de chimiothérapie par quelqu'un d'autre qui avait le droit de le faire pour que le patient puisse en bénéficier. il en a bénéficié. Et s'il devait y avoir une preuve que cette chimiothérapie était nécessaire et utile, au-delà du fait qu'on est dans des débats éthiques qui ne devraient ne rien avoir à titre individuel à voir avec, hein, le patient aujourd'hui va bien, il est tiré d'affaire et on est plus de 2 ans et demi plus tard. Donc voilà ce qui m'a fait réagir. Donc j'ai fait une lettre ouverte à l'ensemble de la communauté médicale et j'ai eu la mauvaise surprise de voir que, un, je n'avais pas de réponse de la direction générale, deux, que je n'avais pas le soutien de beaucoup de collègues puisque j'ai dû avoir une ou deux réponses ouvertes et que j'ai dû avoir moins de 10 mots de soutien en privé des collègues. Alors j'ai fait une relance le 15 janvier, toujours pas de réponse. La consultation, c'était devenu le seul moment où j'avais l'impression de pouvoir faire encore mon métier. Peut-être pas aussi bien que j'aurais voulu, mais de faire mon travail. Parce qu'on oublie le reste des soucis et on est en contact direct avec le patient. Et voilà, et on fait ce qu'on a l'habitude de faire depuis des années. Bon, je pense qu'il y avait quand même des retentissements et qu'il y avait quand même un intérêt pour les problèmes des patients qui n'était peut-être pas exactement le même intérêt que celui que je porterais autrement. Les dernières semaines, il m'arrivait de ne pas avoir la possibilité de réfléchir à quoi que ce soit et de faire quoi que ce soit, et à passer des heures sans faire le travail que j'aurais été censé faire. Hein. Quand je me retrouvais dans mon bureau à faire des tâches plus administratives ou consacrées à du temps de recherche, bah vraiment, j'avais aucune envie et vraiment pas la force de m'y mettre. Je faisais réellement ce qu'on appelle des crises d'angoisse, c'est de l'anxiété, sans en connaître forcément la raison précise, mais avec des répercussions physiques. Vous avez des palpitations, vous pouvez plus respirer, vous tremblez. Alors au-delà des crises d'angoisse, je pense que j'étais vraiment aussi déprimé depuis un moment. Et bon, j'avais l'impression, en quittant l'hôpital, et les derniers temps, je partais de plus en plus tôt parce que je supportais pas de ne plus rien faire comme ça. C'était une bouffée d'air pur que j'avais l'impression de prendre les 2 premières minutes que je quittais l'hôpital. Et puis c'était de nouveau l'angoisse, mais l'angoisse au sens médical du terme, d'être parti de l'hôpital. Et puis ça me quittait plus non plus. Et puis le 15 octobre au soir, je me suis dit « c'est plus possible ».
C'est à ce moment-là que le professeur Rosenthal décide qu'il ne reviendra pas à l'hôpital. Il ne peut plus accepter d'aller à l'encontre de sa déontologie.
La première réaction, ça a été « j'y retournerai pas pendant ces conditions-là ». Je ne peux plus exercer aujourd'hui selon mes valeurs. Et c'est ce qui m'a fait en finale craquer et m'arrêter. Le lendemain matin, je me suis préparé pour aller à l'hôpital comme d'habitude. Et puis en chemin, je me suis garé. Je me suis dit non, j'ai pas la force d'y aller. Et j'y suis pas allé. Je suis allé voir un médecin généraliste. Je lui ai expliqué un peu la situation et je lui ai dit là, je me sens vraiment plus capable d'aller travailler. Il faut que je m'arrête. J'avais l'impression d'être vidé. Et les choses ont eu beau se dégrader pendant des années, il y a un moment où on se rend compte qu'il y a un deuil à faire et c'est assez brutal. Un deuil sur un métier que j'ai choisi et sur une situation que j'ai pas voulu voir, mais comme d'autres pendant des années. On a vu les choses se dégrader, on disait c'est pas possible que ça aille plus loin, c'est pas possible qu'on puisse pas faire quelque chose. Alors je suis pas encore complètement convaincu qu'on puisse rien faire, c'est pour ça que je vais continuer un certain temps de me battre, mais je sais pas si j'aurai le courage de revenir à l'hôpital et de le faire de l'intérieur de l'hôpital.
Le professeur Rosenthal a envoyé des courriers et a alerté sa direction. Il n'a eu aucune réponse, excepté ce mail laconique.
Ils n'ont pas tranché, ils nous ont dit « soyez responsables, individuellement et collectivement, et travaillez le mieux possible ». Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Débrouillez-vous vous-même, c'est exactement ça que le directeur nous dit. aujourd'hui, je commence à regarder ce que je pourrais faire ailleurs. C'est pas évident quand on a été médecin toute sa vie de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir aller faire ailleurs. Moi je suis médecin, j'ai sans doute un certain nombre de qualités, mais pas de qualités professionnelles autres. Et c'est aussi important pour moi d'être utile professionnellement. Et je sais pas où je serai le plus utile. Si je me rends compte que les choses évoluent dans les mois qui viennent et que j'ai l'impression d'avoir de nouveau une place utile à l'hôpital, bah peut-être que je retournerai à l'hôpital.
Mouth of flames that could not wait to hold it and burn. I was inside, I saw it turn.
C'était des démissions de médecins, un reportage de Pascal Pascariello réalisé par Anne-Laure Chanel. Merci aux professeurs au pluriel, Eric Rosenthal, Philippe Halimi et Michel Canis, ainsi qu'à Philippe, c'est Jeanne Delecroix, l'attaché de production des Pieds sur Terre, et Camille Richir, notre stagiaire.
I saw it all. I took what I could from the deafening blade. I could only take so much. One thing goes while another thing stays. Some too heavy, but none that you can reach. The things that I lost, I will always remember. I lost, I will never forget. The things that I lost, left behind no remainder. Things that I lost and the things I'll lose yet. The open white beam of youth is gone. The letters, the songs and the stories are gone. Misguided fears and the illusions are gone. And what I was saying has lost its breath and the air is gone. The things that I took, I hold close to my body. Took, I hold close to my chest. The things that I took and I leave.